Comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois que de vrais progrès ont été accomplis.
Vous y croyez pas à la reprise?
Non, personnellement, non. Pas du tout.
Oui, nous allons avoir une hausse de chômage continue.
Donc je pense que le gouvernement a plutôt montré ces derniers temps qu'il était plutôt en faveur des entreprises et on espère que ça va durer.
Tous ensemble, tous ensemble. Hey hey tous ensemble, tous ensemble.
Écho hey hey d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons dette souveraine, endettement des États. La dette, c'est un peu le furet de l'économie internationale. Elle est passée par ici, elle repassera par là. Elle hante les nuits de beaucoup de ministres de l'économie, qu'ils soient argentins ou japonais, grecs ou français, surtout ces derniers jours. En France, la dette s'envole. 2000 milliards d'euros environ, l'équivalent d'un an de richesse nationale. Pour nous aider à comprendre ce qu'est cette dette, comment des États s'endettent et avec quelles conséquences, deux invités dans ce studio, Paul Deremaux et Michel Aglietta. Bonjour Michel Aglietta.
Bonjour.
Vous êtes membre du Haut Conseil des Finances Publiques, c'est un organe public indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement français. Vous êtes également conseiller scientifique au CEPI, un centre français de recherche économique, et vous avez longtemps, très longtemps, enseigné à l'université Paris-Nice-Nanterre. Une question Michel Aglietta, la dette c'est quoi? Quelle définition en donneriez-vous?
Donc la dette publique.
Hein, la dette publique, oui, nous parlons de dette publique.
Moi, je dirais que c'est un transfert intergénérationnel du financement des biens publics. C'est des biens publics, c'est les biens collectifs qui nous sont nécessaires pour la vie sociale, que ça soit l'école, que ça soit les infrastructures de transport, etc. Hein. Et donc, ils doivent être financés par les citoyens. Et ils sont financés par des flux d'impôts. Mais dès lors que l'État investit en capital, comme une entreprise de ce point de vue-là, elle va investir dans des biens qui vont augmenter la croissance dans le futur. Et donc les générations futures, normalement, seront plus riches que les générations actuelles. Et il est normal qu'il y ait un partage, si vous voulez, du financement. Et donc, d'un point de vue vraiment rationnel, la dette publique, c'est ça. C'est un transfert générationnel de l'impôt, à condition qu'elle soit solvable, bien entendu.
Avec nous également Paul Deremaux, bonjour.
Bonjour.
Paul Deremaux, vous êtes économiste, consultant et banquier. Vous avez fondé et dirigé le groupe Bank of Africa, dont vous êtes aujourd'hui le président d'honneur. Est-ce que le banquier Paul Deremaux a une définition de la dette très différente de celle que vient de donner le professeur Michel Aglietta?
Non, celle du professeur correspond bien à la réalité. On pourrait en donner une vision plus photographique de l'instant.
Allez-y.
C'est de dire que c'est l'ensemble des moyens financiers qu'un État qui a des objectifs d'investissement ou de fonctionnement va rassembler en complément de ses recettes propres, et particulièrement des recettes fiscales, pour faire face à ses besoins et les réaliser dans ces programmes de développement.
Alors, au-delà de la théorie, dans cette émission, nous allons parler de la France. Nous irons aussi en Grèce retrouver notre correspondante Charlotte Stivenard. Elle nous dira qu'Athènes n'en a pas terminé avec cette affaire. Nous parlerons du Japon, où la dette pèse 250% du produit intérieur brut, ce qui fait saliver Tres Knipa, un trader de Chicago qui spécule sur cette dette. Il expliquera pourquoi et comment. Nous parlerons de l'Argentine avec l'interview que m'a accordé un des responsables d'un fonds vautour qui a presque mis les finances de ce pays sud-américain en faillite. Et nous nous intéresserons bien sûr à la situation des pays africains, la Côte d'Ivoire, où la dette pèse beaucoup moins lourd que dans le passé, avec malgré tout quelques inquiétudes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Pourquoi cette fuite en avant dans l'endettement est aujourd'hui impossible? Parce que les prêteurs ne veulent plus prêter. Parce que l'immense pyramide des dettes apparaît aux yeux de tous comme un risque énorme. Alors, mes chers compatriotes, commence un nouveau cycle économique.
La dette, c'est enfin un enjeu de souveraineté nationale. Une France endettée est une France dépendante, dépendante vis-à-vis des agences de notation, dépendante vis-à-vis des marchés financiers. Voilà pourquoi je veux réduire notre endettement public.
Redresser les comptes, pourquoi donc? Mais c'est une obligation financière. Sinon, nous allons être pris par la spirale de l'endettement. C'est une obligation morale, parce que nous ne pouvons pas laisser aux générations futures la charge de nos propres dépenses.
Vous aurez reconnu successivement les voix de Nicolas Sarkozy, de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande. Alors malgré ces déclarations plus ou moins récentes, la dette française ne cesse de grossir. Elle n'a cessé de grossir au fil des années. Elle a atteint 2000 milliards d'euros ces derniers jours. Près de 100% de la richesse nationale produite en un an. Le pays, la France, en est tétanisé. C'est grave, Michel Aglietta, 2000 milliards d'euros de dette pour un pays comme la France ?
Ben oui, c'est important, puisque si on l'exprime en termes de produit intérieur brut, ça fait autour de 95%, hein, et donc on va probablement aller vers 100% du produit intérieur brut. Donc c'est important.
C'est important, mais est-ce que c'est grave pour l'économie d'un pays comme ça ?
Ben, disons que ce qui importe pour tout pays, hein, c'est que ce qu'on a, la dette soit soutenable dans le temps. La différence entre un État et des acteurs privés, c'est que l'État vit infiniment, alors que des acteurs privés ont une limite de vie. Ce qui veut dire que les dettes n'ont pas à être remboursées, comme on dit. Mais il faut qu'elles soient renouvelées de telle manière qu'elles soient compatibles avec une dynamique de croissance du pays et que, dans le temps, on ait assez d'excédents pour, si vous voulez, conserver la dette soutenable sur la totalité de la durée. Mais ce que montre l'économie, les économistes, c'est qu'il n'existe pas de niveau optimal de dette qu'il faut atteindre. Ça, on le connaît pas.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il faut 80%,
absolument,
100%,
absolument.
50%.
Il n'y a rien qui dit qu'il y a un niveau absolument magique au-delà duquel on est dans un processus incontrôlable. Mais ça veut dire qu'il faut une logique de consolidation quand la dette a été élevée, qui s'étendent dans la durée suffisamment, parce qu'on ne peut pas réduire brutalement une dette trop élevée. Si on essaye de le faire, c'est ce qu'on a tenté de faire avec les autres pays en 2011. Hein, on a fait ce qu'on appelle de l'austérité budgétaire. Le résultat, c'est que la dette a augmenté au lieu de baisser.
Alors on va en parler, vous, Paul de Remot, qui êtes habitué aux pays africains, à leur endettement. Quand vous revenez en France comme aujourd'hui, et quand vous dites 2000 milliards d'euros de dette française, cela vous semble tragique ?
Effectivement, ce qui est essentiel, c'est pas tant le montant absolu de cette dette que son poids par rapport au produit intérieur brut. Et quand je reviens en France, comme vous dites, ça me fait toujours penser à la situation qu'ont connu les pays africains dans les années 80-90, où les pourcentages d'endettement extérieur par rapport au PIB étaient très souvent au-delà de ces montants. On a bien vu tous les problèmes économiques, sociaux que ça a posé. Et les solutions mixtes qui se sont passées. Alors en France, je crois qu'il y a plusieurs questions. Il y a d'abord à quoi sert cette dette ? Est-ce qu'elle sert à faire des investissements ou à payer du fonctionnement courant ? Selon les cas, ça n'a pas la même importance. Il y a aussi comment va-t-on effacer cette dette ? Est-ce qu'il va y avoir une croissance qui va le permettre ? Le professeur parlait tout à l'heure des transferts intergénérationnels et de la croissance qu'on attend dans le futur. Est-ce qu'on peut l'espérer encore ? Mais en soi-même, le niveau n'est pas significatif, si je puis dire, du danger, puisqu'on a eu dans le passé, après notamment des guerres, des pourcentages d'endettement qui étaient bien plus élevés que ça, peut-être le double.
Mais c'est la question que je voulais vous poser, Michel Aglietta. On a été beaucoup plus endettés par le passé en France.
Oui, bien sûr. Tiens, j'ai justement dirigé récemment un rapport pour la Caisse des dépôts sur ces questions. Alors, il faut bien dire que la dette peut augmenter pour deux raisons très différentes. La première, ce sont des politiques budgétaires laxistes, ce qui fait que on est en déficit chaque année un peu plus, mais on n'arrive pas à redresser. Et donc, on a, si vous voulez, une dette qui augmente à cause d'une politique budgétaire qui n'est pas assez solide, qui n'est pas assez sérieuse. Et puis, vous avez des dettes qui augmentent à cause de guerres ou de crises financières. À ce moment-là, c'est des dettes qui bondissent. Parce que, dans le cas d'une guerre, on comprend pourquoi, hein, pour financer l'effort de guerre. Dans le cas de crise financière, c'est pour sauver le système financier. C'est ce qui s'est passé. Il faut pas oublier qu'en 2008, il y a eu une crise mondiale absolument catastrophique. Si les États n'avaient pas à la fois relancé l'économie en faisant du déficit et mis de l'argent dans les banques, vous aviez une dépression mondiale. Quand vous avez une dette qui monte comme un saut, comme une marche d'escalier, comme ça, on ne peut la réduire que progressivement dans le temps. Et alors, les expériences qui sont bonnes, c'est en effet les expériences d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, si vous voulez, on avait une dette importante à la fin, en 1890, quelque chose comme ça. Vous avez ensuite suffisamment de croissance. Qu'est-ce qui est absolument décisif? C'est d'avoir un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt, au coût qu'on paye sur la dette. L'État paye chaque année des intérêts sur la dette et un remboursement d'une partie de la dette. Eh bien, il faut que la croissance soit plus forte pour pouvoir tirer assez d'emprunt, assez de
plus forte
recettes,
que quoi
de recettes, que ce coût d'emprunt. Or, nous sommes dans une situation très difficile à cause de ça. La croissance est beaucoup trop basse, alors qu'après la guerre, la croissance était toujours plus élevée que le coût des emprunts. Le résultat, c'est que la dette se réduit automatiquement si la croissance est supérieure au coût des emprunts.
Donc, si je comprends bien, le problème actuel, c'est que la croissance n'est pas assez forte,
absolument.
Peu importe le montant de la dette et le...
On a dit que le montant de la dette n'était pas en niveau quelque chose de très important. Enfin, c'est important, mais je veux dire que c'est pas décisif. Il n'y a pas un niveau au-delà duquel on ne peut plus rien faire. Deuxièmement, nous avons un coût bas aujourd'hui, des taux d'intérêt très bas. Mais comme nous avons une croissance à presque nulle, faut pas oublier que la France, entre 2007 et 2013 compris, sa croissance a été de 0,5%, et même certains disent 0,2, beaucoup trop basse. Pour pouvoir résoudre le problème. Voilà la difficulté essentielle. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir réduire une dette publique élevée, il faut pas seulement une politique budgétaire restrictive, il faut la combiner à une politique de croissance et aussi à une banque centrale qui est capable de maintenir des taux d'intérêt très bas.
Alors, le pays européen qui a probablement connu la crise de la dette la plus sévère, c'est la Grèce. Elle a subi un traitement de cheval au cours des dernières années qui ne semble pourtant pas très concluant. Ces derniers jours, de nouvelles inquiétudes ont même surgi. Les taux d'intérêt des emprunts grecs ont augmenté près de 9% sur la dette grecque et les débats qu'elle provoque à Athènes. Écoutez le reportage de la correspondante de RFI, Charlotte Stivenard.
Μέσα στους επόμενους μήνες, η Ελλάδα θα λάβει για πρώτη φορά επίσημη πιστοποίηση.
La dette est viable, c'est ce qu'a annoncé Antonis Samaras dans son discours à la foire internationale de Thessalonique en septembre. Il sous-entend par là qu'elle n'a pas besoin d'être restructurée. Pour le Premier ministre, il s'agit de rassurer les marchés alors qu'il veut sortir des plans d'aide de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Dans l'opposition, on tient un tout autre discours. Pas possible de parler de dette viable alors qu'elle représente 175% du produit intérieur brut. Pour Alexis Tsipras, le leader du parti de gauche Syriza, elle reste un sujet de campagne.
Nous demandons le recours immédiat au verdict populaire et une négociation qui visera à l'effacement de la plus grande partie de la dette nominale pour assurer sa viabilité. Ce qui a été fait pour l'Allemagne en 1953 doit se faire pour la Grèce en 2014.
Effacer la dette. L'idée est née il y a 4 ans avec les mesures d'austérité qui ont accompagné le premier mémorandum. À l'époque, deux journalistes, Aris Ratsi Stefanou et Katerina Kitidi, tournent le documentaire « Deptocratie » qui promeut cette idée. Pour Aris Ratsi Stefanou, il s'agissait de montrer qu'il existait d'autres solutions pour sortir le pays de la crise.
Quand on a réalisé « Deptocratie », le gouvernement et les médias grand public en Grèce voulaient nous faire croire que l'on était obligé moralement de rembourser 100% de la dette. Mais c'est une idée stupide. Même un étudiant en première année d'économie sait que c'est en pratique impossible de rembourser toute cette dette.
Début 2011, le mouvement se structure alors que les indignés occupent la place de la Constitution à Athènes. Les intellectuels lancent la campagne grecque pour un audit de la dette, inspirée par l'exemple équatorien. Ils veulent avoir accès aux comptes pour calculer quels emprunts ont été faits sans l'accord des citoyens, en ligne de mire, l'effacement. Le parti Syriza relaie cette idée au niveau politique, mais depuis le discours a changé, explique Leonidas Vatikiotis, journaliste qui milite pour un audit.
Le mois dernier, l'un des députés les plus connus de Syriza a dit que nous n'allons pas prendre de décision unilatérale, nous allons discuter de la dette, de tout ça. C'est pour ça que nous ne savons pas ce que le parti va faire quand il prendra la tête du gouvernement.
La position de Syriza sur la dette pourrait se clarifier prochainement. Des élections anticipées pourraient en effet avoir lieu dès le début de l'année prochaine et le parti de gauche est très bien placé dans les sondages.
Alors Paul de Remeau, comment décrire cette situation que vient de nous exposer Charlotte Stivenard à Athènes? Elle n'est pas ubuesque, malgré les efforts, la dette, les taux d'intérêt continuent d'augmenter ?
Non, je crois que la dette continue d'augmenter parce que justement la croissance est faible. Elle a même été négative en Grèce et que à cause des intérêts à payer, on est obligé d'augmenter le poids de la dette. Personnellement, si on reprend ce qui s'est passé les quelques années passées, d'abord, la Grèce s'est en partie mise elle-même dans cette situation à cause du non-respect d'un certain nombre de règles. Et puis, il y a eu aussi, dans les dernières années, des efforts importants qui ont été demandés par la Grèce, réalisés par elle au prix de difficultés sociales élevées, mais aussi des efforts qui ont été faits par certains créanciers qui ont accepté de restructurer, voire d'abandonner une partie de leur dette. Je pense que dans le futur, malgré ce que disait le Premier ministre qu'on entendait...
Le Premier ministre grec
qu'on entendait, cette situation devra être reproduite. C'est-à-dire que les Grecs devront continuer à faire des efforts importants, mais l'annulation ou la restructuration forte d'une partie de cette dette m'apparaît très souhaitable.
Michel Aglietta, qu'est-ce qui explique que les taux d'emprunt imposés à la Grèce se soient envolés cette semaine? 9%, c'est quasiment, ils sont jetés hors du marché?
Oui, c'est ce qui s'était déjà produit énormément après 2010, dès le début de la crise grecque. C'est-à-dire que le problème de fond, c'est en effet que la dette de la Grèce est insoutenable. Au sens où on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans le temps, on n'arrive pas, si vous voulez, à créer un échelonnement des remboursements qui permette de la valider dans le temps. La non-reconnaissance du caractère insoutenable, alors que les marchés le pensent, crée des périodes d'extrême stress de marché dans lesquelles on veut se débarrasser de la dette grecque.
C'est-à-dire que les opérateurs,
pour pas faire des pertes, oui.
Les banquiers comme Paul de Romont veulent se débarrasser de la dette grecque.
C'est cela, oui. Il le cède à des prix qui permettent les échanges entre des personnes qui peuvent éventuellement en racheter pour des raisons spéculatives et ce qui peut encore accroître les tensions sur le marché.
Michel Aglietta, c'est un cercle vicieux.
Ben oui, parce que après vous avez un effet de boule de neige, quoi. Hein, c'est comme si la dette augmentait, quand une boule de neige descend une pente, elle ne fait que gonfler. Les taux d'intérêt à 9% mettent la dette immédiatement, très rapidement, en insolvabilité complète. Et donc c'est pour ça que la Banque centrale, dans le passé,
la Banque centrale européenne
a cherché à ramener les taux d'intérêt, que ça soit de la Grèce, du Portugal ou de l'Irlande, qui étaient les trois pays qui étaient sous des programmes d'aide, les ramener vers le bas. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir repartir, en effet, aujourd'hui, les taux d'intérêt de la Grèce vers le haut.
Est-ce que ça peut menacer la zone euro dans son entièreté?
Oui, on l'a vu, parce que vous avez une contagion qui se fait entre les marchés publics, notamment par l'intermédiaire des banques. Les banques, parce que quand la dette grecque est en difficulté, les banques grecques le sont. C'est les premières qui... Mais beaucoup de banques prêtent aux banques grecques. Ceci pose des problèmes bancaires. Rappelez-vous qu'on est actuellement encore dans une phase où on se dit où sont les pertes des banques déjà qui ont déjà été accumulées depuis la crise de 2008. Donc, on peut retrouver ce qu'on a vu en 2012, c'est-à-dire une situation dans laquelle les banques se gèlent complètement. Elles veulent plus ni se prêter les unes les autres, ni prêter aux États, sauf par exemple les banques françaises à l'État français. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une remontée rapide des taux d'intérêt espagnols, portugais et éventuellement italiens.
Et français?
Français probablement pas, parce que nous ne sommes pas dans une situation que le marché juge insolvable pour l'instant.
Pour l'instant, vous pensez que ça peut se détériorer à court terme?
À court terme, je ne crois pas. Mais si on continue dans une dérive, en effet, et une croissance beaucoup trop basse, on risque de trouver une zone euro qui ne peut plus se gérer de manière collective.
C'est la fin de cette première partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Michel Aglietta, consacré à la crise de la dette. Dans la deuxième partie, nous parlerons Afrique, Argentine et Japon.
L'année prochaine, nous prévoyons un taux de croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On gagne peu. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons comme ça. Nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la crise de la dette des États. Deux invités, Michel Aglietta, membre du Haut Conseil des Finances Publiques, un organisme public indépendant chargé d'évaluer la crédibilité des prévisions budgétaires, et Paul Deremeau, banquier franco-malien, président d'honneur du groupe Bank of Africa. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé dette française, dette grecque, dette européenne. On pourrait aussi parler des États-Unis, mais nous allons plus au sud, en Amérique latine. Dans les années 80, ce continent a connu une très grave crise de la dette. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de cette situation. Comment est-ce que l'Amérique latine s'en est sortie, Michel Aglietta ?
Alors, l'Amérique latine a en effet une crise énorme dans les années 80, et il faut bien voir à quel point c'est dépendant de questions mondiales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le choc pétrolier. Les chocs pétroliers ont amené à une augmentation du prix du pétrole. Il a fallu emprunter beaucoup pour pouvoir payer le pétrole, pour garder une croissance minimale. Ensuite, à la fin des années 80, Paul Volcker double les taux d'intérêt aux États-Unis.
Donc Paul Volcker, c'est le gouverneur de la Fed
de l'époque.
De la Fed américaine.
Résultat, des taux d'intérêt auxquels on avait emprunté qui étaient bas, mais avec des taux variables. On fait que les emprunteurs, c'est-à-dire le Mexique, l'Argentine, le Brésil, se sont trouvés avec des coûts de dette absolument gigantesques, en même temps que la croissance s'effondrait des faits du choc pétrolier, et puis de la désinflation que les Américains cherchaient à mettre en place. Donc ils sont tombés immédiatement dans une situation d'insolvabilité. Mais le Fonds monétaire... Le Fonds monétaire international et les créanciers occidentaux ont fait ce qu'on fait aujourd'hui pour la Grèce, fait semblant de croire que c'était sûrement une crise temporaire de liquidité, c'est-à-dire que les pays n'avaient pas assez d'argent pour rembourser les échéances qui arrivaient de dette, mais qu'ils l'auraient en définitive dans le temps. Toujours pareil. Or, c'était vraiment une crise d'insolvabilité. C'était impossible de rembourser ces dettes. Donc, on a traîné pendant 6 ans, en fait, de 82 à 88, en essayant de faire mener des politiques d'austérité à ces pays. Résultat, on n'a évidemment rien fait, la dette n'a fait qu'augmenter alors que la croissance baissait.
Comme aujourd'hui en Grèce.
C'est un enseignement pour la Grèce et pour l'Europe entière, je veux dire, actuellement. Hein. Et donc, il y a eu un changement très important qui s'est passé au tournant de 1988-89. Le gouvernement américain a repensé les choses d'une autre manière, en disant, premièrement, parce que c'était une dette bancaire, donc ça paralysait les banques aussi. Hein. Premièrement, il faut sortir cette dette des banques, il faut la convertir en une dette beaucoup plus large, acheté par les investisseurs de marché. Donc, il faut transformer les prêts bancaires en obligations, c'est-à-dire une dette qui peut se négocier sur des marchés et s'échanger entre un grand nombre de gens. Et puis, il faut réduire la dette.
C'est ce qu'on appelle le plan Brady, c'est ça ?
Et donc, bon, il y a eu ce qu'on appelle le Club de Paris, hein, qui a réduit ces dettes-là. Le plan Brady, c'est le plan qui transforme de la dette bancaire en dette de marché.
En obligation.
Qui donc passe une dette qui dure 7 ans et la transforme en dette en 30 ans. Donc ça réduit énormément les paiements annuels. Hein. Et en même temps, les taux d'intérêt étaient plus faibles que les taux initiaux. Ce qui fait que ça a été ce qu'on appelle un rééchelonnement de dette ou une restructuration par rééchelonnement qui a fonctionné.
Alors la crise de la dette en Amérique latine n'est pourtant pas complètement terminée. L'Argentine a partiellement fait défaut au mois de juillet dernier et s'est dite incapable de rembourser ce qu'elle devait. Mais la raison pour laquelle on parle beaucoup, beaucoup de la dette argentine depuis des années, c'est parce que le gouvernement argentin, encore celui de Cristina Kirchner, est aux prises avec des fonds d'investissement qu'on appelle couramment et méchamment des fonds vautours. Si ces fonds obtenaient satisfaction, Buenos Aires affirme que ça lui coûterait 100 milliards de dollars. Le plus puissant de ces fonds, c'est Elliott Management. J'ai pu joindre au téléphone il y a quelques jours à New York le gestionnaire du dossier argentin de ce fonds, Elliott Management, Jay Newman, et je lui ai demandé ce qui avait amené son entreprise, sa compagnie, à s'intéresser à la dette argentine.
Nous avons commencé à acheter leur dette aux Argentins avant qu'ils fassent défaut en 2001. Nous pensions alors qu'en dépit de problèmes de court terme, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, un pays à très fort potentiel. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, je voudrais vous renvoyer vers une étude de l'agence Moody's. Elle porte sur les défauts des pays en développement des 15 dernières années. Ces pays mettent en moyenne 10 mois à régler leur situation à partir du moment où ils ont fait défaut. mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec l'Argentine. L'administration Kirchner a un point de vue différent du défaut. Elle ne le considère pas comme un problème auquel il faut trouver une solution, mais comme une possibilité de gain potentiel. Alors, d'abord, entre 2001 et 2004, il n'y a eu aucun contact de l'Argentine avec les investisseurs et les créanciers. Et cette année-là, elle a proposé unilatéralement, sans la moindre négociation, de rembourser 25 cents par dollar qu'ils devaient. C'est très, très peu. Ils ont simplement dit, c'est à prendre ou à laisser. Les investisseurs étaient bouche bée. Et si vous regardez ce qui s'est passé avec la première restructuration de leur dette en 2004, les deux tiers de ce qui a été rééchelonné l'a été par des institutions locales qui n'avaient vraiment pas le choix.
Alors j'ai aussi demandé à Jen Newman d'Elliott Management combien cette bagarre avait coûté en dépenses légales à son fonds d'investissement. Écoutez sa réponse tout en subtilité.
You're absolutely right that it's been...
Vous avez tout à fait raison. Cela a coûté très cher et inutilement en cher aux créanciers. Mais si vous regardez de l'autre côté, et je ne parle pas des dépenses en matière judiciaire de l'Argentine, mais de ce que ça lui a coûté sur le plan économique, là, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Les entreprises argentines, les provinces argentines, les villes ne peuvent plus emprunter à des taux compétitifs. La Bolivie, qui ne boxe pas du tout dans la même catégorie que l'Argentine, peut emprunter sur les marchés à 6%. Si l'Argentine pouvait le faire, elle emprunterait à 15%. Ils doivent environ 12 milliards de dollars. Mais il est important de mettre ça en perspective de ce que pèse l'économie argentine. Actuellement, la dette argentine, c'est 34% de leur produit intérieur brut. Il faut comparer ça aux États-Unis avec les 100% ou de certains pays européens. Cela veut dire que l'Argentine est en mesure de remplir ses obligations. Et si elle le faisait, si elle émettait de la nouvelle dette, le ratio entre les endettements et le PIB n'augmenterait que de 2%.
Their debt to GDP ratio would increase by perhaps 2%.
Qui a raison, Michel Aglietta, l'Argentine ou ses fonds d'investissement, ses fonds vautours?
Non, mais l'Argentine a subi une deuxième crise. C'est pour ça qu'elle est endettée. C'est la crise de 2001. Ça a été une crise très sévère puisqu'en même temps, ils ont été amenés à changer le système monétaire complètement. Et donc, il y a eu à la fois une dévaluation monétaire qui a coûté extrêmement cher pour de la dette qui était en dollars et qui devait continuer de payer en dollars alors que la monnaie s'était dépréciée de 30%. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'Argentine a négocié avec un ensemble de créanciers, la plupart des gros investisseurs institutionnels, un rééchelonnement de dette et donc un phénomène de restructuration, comme on en a parlé. Ce qui est, qu'on peut considérer comme scandaleux, c'est que ce contrat collectif qui a été admis par une majorité de créanciers, étant donné qu'il était en droit américain parce que c'était une dette en dollars, n'a pas été reconnu par le tribunal comme engageant tout le monde. Or, c'est ce que le FMI veut faire maintenant, hein, c'est-à-dire éviter que des spéculateurs privés qui sont en des hedge funds, n'est-ce pas, qui cherchent à tirer parti de ces situations-là pour faire des profits gigantesques, évidemment, ne puissent plus le faire. C'est-à-dire qu'on est en contrat collectif et dès qu'une majorité qualifiée de créanciers accepte un contrat, personne n'a le droit d'aller contre. Et tout le monde est engagé par la majorité. C'est vraiment la logique, si vous voulez. Et le Fonds monétaire, l'OCDE, etc., toutes les organisations internationales vont dans ce sens. Donc cette affaire fonds vautours est évidemment extrêmement inquiétante dans la mesure où elle permet, si vous voulez, de déstabiliser un processus qui était engagé.
Les fonds vautours, l'Afrique les connaît aussi.
Oui, il y en a eu notamment, je pense, dans certains pays d'Afrique centrale qui se sont manifestés et qui ont essayé de faire des opérations de ce genre. Mais le discours de votre interviewé était, à mon avis, assez partial dans la mesure où il occultait un certain nombre de choses et ne tenait pas compte justement de ce qui était important à souligner, à savoir que près de 75%, je crois, des créanciers avaient accepté le plan argentin et qu'on ne doit pas, à mon avis, s'intéresser seulement aux aspects juridiques qui comptent, bien sûr, et qui doivent être respectés, mais aussi à l'ensemble de l'environnement économique et social dans lequel un gouvernement se bat.
Alors, au-delà du phénomène de ces fonds, quel impact a sur l'économie d'un pays comme l'Argentine? On pourrait aussi parler de la France ou de pays africains il y a quelques années. C'est quoi l'impact d'être très endetté, Michel Aglietta?
Ben, l'impact d'être très endetté, c'est de ne plus que l'État est en difficulté pour jouer le rôle qu'on appelle rôle de régulation macroéconomique. C'est-à-dire que quand un pays tombe dans une basse conjoncture, il est normal que l'État soutienne pour éviter que le chômage n'augmente trop. En sens contraire, quand un pays est en surchauffe, il faut réduire les dépenses budgétaires. Et si un État est très endetté, il n'a plus la faculté de pouvoir jouer ce rôle de stabilisateur de la conjoncture. Auquel cas, une récession qui peut être, si vous voulez, une récession banale, peut se transformer en dépression importante et déstabiliser la finance et ensuite la dette, etc. Un phénomène de boule de neige. Donc, un niveau trop élevé de dette, si vous voulez, réduit les moyens d'action de l'État.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous parlons de la dette souveraine sur RFI, de la dette des États. Deux invités, le banquier Paul de Remeau et l'économiste Michel Aglietta. Les pays africains, nous en parlions à l'instant avec vous, Paul de Remeau, ont longtemps été confrontés à une lourde dette. Aujourd'hui, le problème est quasiment réglé, peut-on dire. La plupart d'entre eux sont endettés à hauteur de 30 ou 40% de leur PIB environ. Comment est-ce qu'ils ont fait, Paul de Remeau ?
Bien, il y a eu la conjonction de beaucoup de choses. C'est une crise qui remonte aux années 1980-1990. Elle s'est d'abord manifestée, ça a été une crise bancaire, mais aussi une crise des finances publiques, une crise de l'endettement. Certaines raisons ont été évoquées tout à l'heure. La hausse des taux d'intérêt, la crise pétrolière. En Afrique, on peut ajouter la détérioration des termes de l'échange qui a été très pénalisante pour beaucoup de pays.
Sur les matières premières ?
Sur les matières premières, oui. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, à cause de la crise des finances publiques, tous les programmes d'ajustement structurel qui ont été lancés, qui ont demandé aux pays africains des mesures d'austérité multiples, multiformes et très très lourdes socialement.
Ce qu'on appelait l'ajustement structurel, c'est ça ?
On appelait ça les PAS, les programmes d'ajustement structurel qui ont touché presque tous les pays africains et beaucoup de pays en développement. Et comme cela ne suffisait pas, on a ensuite entamé un processus d'allègement des dettes qui correspondait à la suite de ce que vous évoquiez tout à l'heure, le plan Brady, et qui s'est traduit en Afrique par la tenue de beaucoup de clubs de Paris pour les différents pays concernés.
Un club de Paris réunit les créanciers
publics. Les créanciers publics bilatéraux essentiellement. Ça a été continué par les clubs de Londres qui ont concerné les créanciers privés des pays africains. Et il y a eu ensuite tout un mécanisme qui a engagé les institutions multilatérales à travers un acronyme très célèbre aussi qui était les PPTE, les initiatives pour les pays pauvres très endettés, et qui a concerné près de 40 pays en tout, et dont une bonne trentaine sur l'Afrique, et qui a permis, avec des mécanismes complémentaires, d'alléger de plus de 80% la dette africaine des pays qui étaient touchés par cette initiative.
Ce qui fait aujourd'hui, Michel Aglietta, que ces pays africains pourraient donner des leçons à l'Europe ?
Ben oui, enfin, il semble que l'Afrique, dans les années 2000, a changé en quelque sorte de régime de croissance, on dit. Hein. C'est-à-dire que la croissance y est venue. Le problème, c'est l'hétérogénéité en Afrique, évidemment, qui fait que c'est pas du tout homogène. Hein.
50 pays.
Mais si vous prenez la croissance subsaharienne dans son ensemble, elle a pu dépasser 5% par an pendant plusieurs années, etc. Donc, elle rentre dans... Il y a une espèce d'émergence qui se fait en Afrique, hein, à travers l'augmentation de la population, l'urbanisation, le début d'industrialisation, etc. Donc évidemment, ça a créé une plus grande croissance, a permis, et sans, peut-être aussi, monsieur le sait mieux que moi peut-être, disons une meilleure gestion, meilleure gestion de la dette, une meilleure gestion des finances publiques dans certains pays, notamment au moins, et bien évidemment, ça a amélioré sérieusement la situation. Mais c'est la croissance qui a été l'élément le moins crucial, à mon avis.
Alors cette croissance, elle... continue, ces 5% c'est toujours là, et pour financer cette croissance, les gouvernements africains font de plus en plus appel au marché privé des capitaux. Ils s'endettent de nouveau et ça fait le bonheur des investisseurs. Pour 2015, Abidjan prévoit de lever par exemple 550 millions d'euros sur les marchés. C'est la même somme que ce qui a été levé au mois de juillet dernier, toujours par la Côte d'Ivoire. Et la ministre des Finances de ce pays, Niale Kaba, s'en était alors expliquée sur RFI au micro de Nathalie Amar.
Il faut dire que la Côte d'Ivoire sort d'une longue période de crise. Mais la Côte d'Ivoire a une économie qui a beaucoup évolué. La Banque mondiale, au mois de mai dernier, dans son classement, a considéré que nous n'étions plus à la fois dans la catégorie des pays fragiles, mais également nous n'étions plus dans la catégorie des pays à faible revenu. C'est reconnaître notre capacité donc à aller nous confronter au marché pour faire le bouclage du budget. Nous le faisons sur le marché sous-régional de l'UEMOA, et là nous sommes allés à la rencontre du marché international.
Et n'y a-t-il pas un risque à s'endetter aussi massivement? Est-ce que ce n'est pas hypothéquer l'avenir du pays?
L'investisseur qui prête à la Côte d'Ivoire est très soucieux d'être remboursé à terme. La Côte d'Ivoire a un taux d'endettement de l'ordre de 43%. C'est vraiment un taux respectable, c'est un taux qui est très bon. C'est l'un des plus faibles de l'Afrique de l'Ouest.
Ces fonds qui ont été levés, à quoi vont-ils servir?
On va pouvoir financer donc des secteurs aussi importants sur le budget 2014 que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures routières notamment. Et il y a une partie qui ira sur les programmes d'éducation et de santé.
Alors la technique à laquelle la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays africains en ce moment, fait appel, c'est le recours à l'emprunt obligataire. Vous pouvez en deux mots nous définir ce que c'est, Michel Aglietta?
Les obligations, ce sont des titres de dette, hein, c'est-à-dire des contrats qui donnent aux créanciers le droit d'avoir un intérêt pendant une certaine période et un remboursement. Enfin, disons, il y en a de plus différents ordres. Mais le point important, c'est qu'il est, comme on dit, négociable. C'est-à-dire qu'un créancier particulier peut aller sur un marché, qu'on appelle le marché secondaire, et le vendre à quelqu'un d'autre. Qui prendra en charge la dette. Ce qui veut dire qu'il y a un aspect de liquidité de la dette bien meilleur, hein, et que le risque par conséquent est partagé en une plus grande catégorie de créanciers potentiels, si vous voulez, hein. Ce qui peut réduire le coût d'ailleurs de la dette pour l'emprunteur.
Paul Deremaux, vous banquier d'Afrique, banquier africain, vous avez souvent eu affaire à ces modalités d'emprunt obligataire par les États africains?
Oui, bien sûr. La manière de fonctionner dont parlait Madame la ministre à l'instant était quelque chose qui a été à la base de la création des marchés financiers, du marché financier de l'UMOA en 1998. Où on a voulu justement élargir les possibilités d'emprunt non seulement des entreprises mais aussi des États. Et depuis l'arrêt des possibilités des États de se refinancer auprès de la Banque centrale par le recours à ce qu'on appelle l'article 16 de la charte de la Banque centrale, il y a un recours de plus en plus important des États à ce marché financier. On estime qu'il y a à peu près actuellement 70% des obligations sur le marché financier de l'UMOA qui sont des obligations d'État.
Et la c'est pas dangereux? Ces pays africains-là ne s'endettent pas trop de nouveau?
Tout est dans l'utilisation qu'on fait de ces emprunts. Enfin, je considère que l'endettement, c'est aussi un accélérateur, comme si on mettait un turbo dans la machine. Donc, à partir du moment où vous avez cette possibilité d'aller plus vite, ça vous permet de faire plus de choses, notamment en termes d'investissement. L'interview montrait justement tous les objets auxquels était destiné cet emprunt. Mais la voiture qui va plus vite, elle a aussi plus de risques d'avoir un accident si elle ne suit pas la bonne route. Donc tout est une question d'utilisation de ces fonds pour la croissance. Si les emprunts obligataires sont bien utilisés pour des investissements, pour générer une croissance, je crois qu'ils sont légitimes. Mais il faut effectivement garder des ratios qui soient corrects. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un très grand allègement de la dette en 2012 avec la fin de l'initiative PPTE. Son taux d'endettement maintenant est réduit. Sur l'année 2014, elle s'est présentée de manière très importante sur le marché régional et sur le marché international. C'est aussi légitime parce que c'est redevenu la locomotive de l'UMOA. Maintenant, cela doit se traduire dans les faits pour que les investissements qui ont été réalisés ou qui sont annoncés génèrent effectivement une croissance pérenne.
L'un des pays probablement les moins endettés au monde, c'est l'Algérie, 2% de son PIB. C'est la bonne politique, Michel Aglietta ?
Je ne sais pas trop, mais c'est un pays qui a des recettes pétrolières considérables.
Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas s'endetter pour fonctionner correctement ?
Ah oui, c'est probable. Oui, ça me paraît vraiment très très faible. D'ailleurs, l'Algérie n'est pas un des pays les plus performants en Afrique actuellement. C'est-à-dire que c'est un pays qui semble avoir beaucoup de mal à convertir la rente pétrolière, la rente pétrolière, c'est-à-dire le revenu qu'on tire de la propriété du pétrole, en un processus d'industrialisation compétitif, augmenter la compétitivité et diversifier sa structure productive. Et c'est les pays qui réussissent sont assez peu nombreux, c'est-à-dire les pays qui ont des rentes pétrolières ont un mal fou à la transformer ensuite en une économie dynamique. Et c'est le problème de l'État, de comment on dirige, est-ce qu'on a un point de vue sur le futur de développement, etc. L'Algérie, manifestement, n'y réussit pas bien.
Alors nous allons terminer ce tour du monde des pays endettés avec probablement celui qui l'est le plus de tous, c'est le Japon. La dette japonaise, c'est 250% du PIB, le produit intérieur brut, un chiffre sidérant à bien des égards, Michel Aglietta.
Oui, c'est vrai et c'est pas vrai, ça dépend, je veux dire, ça c'est ce que dit le Fonds monétaire, le ministère des Finances japonais dit c'est 210%, et ça c'est la dette brute, c'est ce qu'on a considéré jusqu'ici. On n'a jamais considéré, dans tout ce dont on vient de parler, que l'État pouvait avoir lui-même des créances, c'est-à-dire à son actif, l'État il a un bilan comme les autres agents, il a des créances qui sont liquidables, c'est-à-dire qu'il peut les vendre et obtenir de l'argent qui peut lui servir à réduire sa dette. En termes, le Japon en a énormément. Ce qui fait qu'en termes nets, si on enlève les créances qu'il peut vendre, la dette n'est plus que 130% du PIB.
Mais ces créances, c'est quoi ?
C'est des titres que l'État japonais...
Mais lesquels, par exemple, les bons du Trésor américain ?
Bien sûr, des choses comme ça, oui. Comme la Banque centrale de Chine, etc. Bien sûr.
Alors, cette dette japonaise, elle fait saliver les spéculateurs. Tresknipa est établi à Chicago. C'est un trader de matières premières agricoles et il gère aussi un fonds spéculatif sur la dette japonaise. 1,5 milliard de dollars lui ont été confiés par des investisseurs pour parier sur l'effondrement du système japonais. Je lui ai d'abord demandé pourquoi il pensait que le Japon allait avoir des problèmes.
Aujourd'hui, le Japon dépense deux fois ce qu'il encaisse comme impôt sur le revenu. Ce n'est pas gérable. Donc, mon opinion, c'est que le Japon va continuer à faire du déficit budgétaire. Ils vont continuer à emprunter, continuer à émettre des obligations, et c'est la Banque du Japon qui va les acheter en imprimant de la monnaie, du yen. Donc, l'investisseur individuel doit vendre du yen à terme. Parce qu'une obligation, ce n'est qu'une reconnaissance de dette. Je donne de l'argent au gouvernement, et ils s'engagent à me rembourser. Donc si j'ai leurs obligations et que je vois que leur monnaie s'effondre, pourquoi est-ce que je garderais ces obligations ? Une faiblesse de la monnaie va obligatoirement provoquer des ventes sur le marché obligataire. C'est économiquement juste et historiquement exact.
Ce constat fait, comment Tresknipa spécule-t-il sur la dette japonaise ? Écoutez ses explications.
What I'm buying for my fund is I'm buying what is essentially an insurance policy.
Ce que j'achète pour mon fonds, si je simplifie énormément, c'est un contrat d'assurance qui me couvre contre les risques du marché des obligations de l'État japonais. Ce qui est très dangereux, c'est que les banques japonaises vendent un contrat qui protège contre les obligations qu'elles-mêmes détiennent. C'est comme si vous ou moi, nous achetions une maison pour la louer. Nous espérons en retirer 5000 euros de loyer, mais on n'y arrive pas. Le locataire ne paye que 2500 euros par mois, donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée une assurance incendie de 25 euros sur la maison, on la vend à une centaine de personnes, ça permet de récolter les 2500 euros qui manquent. À ces gens, on leur dit qu'on ne pense pas que la maison va brûler. Si la maison ne brûle pas, j'encaisse la prime d'assurance. C'est tout ce que je fais. J'achète de l'assurance sur ces obligations d'État et les banques sont assez stupides pour me les vendre. En fait, elles devraient me les acheter. Donc le problème, si on revient à l'exemple de la maison, si elle brûle, la banque perd son investissement et en plus, elle doit rembourser les gens qui ont souscrit un contrat d'assurance. C'est très, très dangereux et c'est ce qui se passe en ce moment au Japon.
Paul de Remo, vous pensez que Tresnipa, ce trader de Chicago, a raison de parier sur l'effondrement de ce système ?
À son propre point de vue, peut-être, si son objectif c'est bien la spéculation, mais je pense que il agit à contre-courant et que les autorités sont en mesure de prendre des dispositions pour limiter cette incidence.
C'est de la folie ce qu'il fait, Michel Aglietta ?
Ben, il prend le risque d'un spéculateur, hein. Ça, c'est... et donc il est obligé de se faire un scénario qui va dans ce sens. Qu'est-ce qui peut mener au Japon à une détérioration de la capacité d'épargne qu'a le Japon? Des choses assez profondes qui sont le vieillissement, qui fait baisser l'épargne des ménages. Au fur et à mesure du vieillissement, on le constate. Et les difficultés que, plus grandes qu'avant, que le Japon a à avoir un excédent sur l'extérieur. L'excédent sur l'extérieur, ça vous rapporte une épargne, si vous voulez, que vous pouvez replacer. C'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que si jamais le Japon tombait en déficit de sa balance courante, c'est-à-dire qu'il emprunte, il importe plus qu'il n'exporte, ceci peut, en même temps qu'il y ait une baisse de l'épargne des ménages, on peut avoir ce problème.
Merci à vous, Michel Aglietta et Paul Deremaux. Cette émission, cet écho d'ici, écho d'ailleurs, est maintenant terminée. Elle était réalisée par Guillaume Munier. Vous pouvez nous réécouter ou nous podcaster sur le site internet de RFI, rfi.fr. À la semaine prochaine.